Dialogue entre Congolais avec Alain Gong à la présentation.
Bonsoir, révision constitutionnelle, divergence entre majorité et opposition sur la proposition portant révision du scrutin présidentiel à un seul tour. Comment analyser cette divergence? Trois invités participent à cette émission. Professeur Arsen Mouaka, professeur au département des sciences politiques de l'université de Kinshasa. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Ngoma Binda, doyen de la faculté des lettres de l'université de Kinshasa et qui est philosophe politologue, il va nous rejoindre dans un court moment. Professeur Moïla Kiyembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France et analyste politique. Professeur Moïla, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, nous les avons déjà. Daniel de Kisangani en province orientale. Peut-on expliquer au peuple congolais les avantages et les inconvénients du scrutin à un tour et à deux tours sur la promotion de la démocratie en RDC? Jacques Barreau de Bukavu Sud Kivu, quel était l'esprit que les législateurs de la loi électorale de 2006 a voulu imprimer au scrutin à deux tours? Les raisons de cet esprit ont-elles disparu en 2011? Ont-elles changé pour en modifier l'esprit? Nos vœux les meilleurs pour cette année 2011. Bienvenue à tous dans cette émission, votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Révision constitutionnelle, divergence entre majorité et opposition sur la proposition portant révision du scrutin présidentiel à un seul tour. Ce mardi à l'Assemblée nationale, l'opposition a tenté d'empêcher le vote de la motion de François Mwamba relative au rejet de la proposition de loi portant révision constitutionnelle pour vice de forme, mais la majorité a finalement jugé recevable cette proposition de loi relative à la révision constitutionnelle à l'issue du vote par 334 voix pour, 1 contre et 2 absents. Nous accueillons dans ce studio Julien Namoigny. Bonsoir Julien.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
Vous êtes notre permanent au Parlement, Julien. Commençons par parler de l'ambiance qui a prévalu au cours de la plénière d'aujourd'hui.
Écoutez, il faut dire que c'est dans le chahut que la plénière de l'Assemblée nationale a commencé ses travaux de ce mardi, notamment dans les rangs de l'opposition. Sifflets, cris et autres colibères ont été entendus. Certains députés en sont venus aux mains. Cela rappelle un peu l'ambiance de la conférence nationale souveraine. C'est un spectacle tout de même décevant offert cet après-midi par les élus du peuple.
Julien, vous avez sans doute jeté un coup d'œil dans le texte de proposition de loi portant révision constitutionnelle. Quels sont les articles de la Constitution qui sont concernés par cette révision?
8 articles au total sont concernés par cette révision. Les plus importants sont les articles 71 à l'initiative premier qui prévoit une élection présidentielle à deux tours, l'article 110 relatif à la perte du mandat d'un parlementaire lorsqu'il est nommé à une fonction politique incompatible, il peut retrouver son siège au sein du Parlement, les articles 197 et 198 relatifs aux institutions provinciales souvent en conflit au cours de cette législature, de nouvelles propositions sont faites et qui donnent plus de pouvoir au chef de l'État. Le président de la République peut donc arbitrer en cas de conflit. On peut ajouter sur cette liste l'article 149 sur l'organisation judiciaire, notamment le rapport entre le parquet et le ministre de la justice, et puis l'article 208 sera réexaminé. Le constituant ne détermine pas l'autorité compétente pour convoquer le peuple en référendum. La nouvelle disposition prévoit que la plus haute autorité de l'État soit l'unique compétente à appeler le peuple au référendum. Il s'agit bien évidemment ici du président de la République.
Dernière question, Julien, à propos du scrutin, du scrutin présidentiel à un seul tour, quels sont les arguments qui sont avancés par la majorité?
Deux raisons sont évoquées ici. La première, le délai constitutionnel de l'organisation du deuxième tour de présidentiel de 2006, prévu initialement après 15 jours, avait été reporté par la Cour suprême à 45 jours en raison des contraintes matériel aujourd'hui, puisqu'hier, les conditions matérielles se posent encore. Deuxième raison, la compétition sur deux candidats au deuxième tour en 2006 a conduit, selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, à une bipolarisation du pays, je cite, épousant le contour politico-géographique Est-Ouest. Fin de citation. C'est donc cet article qui pose problème pour l'opposition. Face à cette situation, la cohésion nationale en a pris un coup. Ça, c'est le texte qui me dit.
Merci Julien Nyamouini et bonne soirée.
Merci.
Voilà, professeur Arsène Mouaka, vous avez suivi le débat ce soir à l'Assemblée nationale. Juste un mot par rapport à l'ambiance qui a donné lieu à des échanges de coups de poing.
Oui, je crois que c'est inacceptable que nous puissions encore faire un retour vers les violences. Nous sommes pratiquement à la cinquième année de l'exercice démocratique. Il est inacceptable que les problèmes se résolvent par des violences, alors que la démocratie est par excellence un moment d'échange d'idées, un moment de choix d'élection, et je crois que le Parlement doit être cet espace d'excellence où doivent prévaloir des valeurs démocratiques. Et cela était en répété pendant la période de transition de Mobutu, que nous étions face d'une classe politique médiocre. Et je crois que nous n'allons pas dire que notre Parlement est une reproduction de cette classe que nous avons qualifiée hier de médiocre. Je continue à croire que c'est pratiquement un accident de parcours et que cela ne va pas être la règle. Mais il convient de dire que le débat actuel nous remet actuellement en fait à une situation que nous avons connue dans les années 90, où je crois que d'ici quelques mois, nous allons assister à une effervescence dans la ville et surtout dans les états-majors politiques.
Alors, cette ambiance sourde hein, à l'Assemblée nationale montre quand même l'ampleur ou le niveau, le degré hein, du problème. C'est que le scrutin présidentiel à un tour suscite des passions. Comment vous analysez cette divergence entre la majorité et l'opposition sur cette question essentiellement?
Oui, je crois que il s'agit d'anticipation. Il faut clairement le dire, à gauche et à droite, chacun cherche à anticiper dans le jeu. Il s'agit de se positionner dans le sens où demain, on peut se retrouver au pouvoir. Et une fois encore, nous sommes à une discussion qui nous amène vers la construction d'une nation, mais nous sommes dans des discussions de hommes qui se méfient de tout et qui ne voient que le pouvoir. Il convient quand même de dire que ce débat a une grande influence sur ce que va être le Congo de demain. Et malheureusement, c'est dans la passion, c'est dans l'agitation et c'est dans des discours politiciens qu'on assiste à ces situations. Et donc, moi je me dis qu'il convient pratiquement d'aborder cette discussion sur trois plans. D'abord, pour revenir pratiquement à une des questions qu'un des auditeurs a posées, pour dire qu'est-ce qu'on a voulu résoudre en choisissant le scrutin majoritaire à deux tours en 2006. Qu'est-ce qu'on voulait résoudre? Quel était le problème? Je crois que cela nous renvoie dans l'histoire de notre pays et nous n'allons pas la refaire ici, mais chacun sait que c'était une histoire des violences, des guerres et une histoire identitaire où certains s'estimaient exclus et qu'il fallait absolument amener les politiciens à fédérer davantage, à faire des alliances, à s'accepter malgré des petites différences. Et c'est ce à quoi on est arrivé, et malheureusement, je semble croire qu'un des résultats qui pouvait être considéré comme transitoire, où on a assisté pratiquement à une sorte de bipolarisation régionale Est-Ouest, qui, à mon avis, est déjà une évolution. Il ne s'agit pas de recul, à mon avis. Il s'agit d'une évolution.
Alors, le deuxième point, rapidement, avant de donner la parole au gouvernement,
oui.
Le troisième.
Rapidement, c'est de dire aussi quelles peuvent être les implications. Il faut qu'on se pose des questions sur ce que peuvent être les implications de ce débat sur pratiquement l'avenir de la nation et sur la suite des élections. Je crois qu'on ouvre là le plan pour en fait, le plan vers des contestations demain. ce qui sera très facile pour celui qui ne sera pas élu, de contester le mode de scrutin et de trouver les raisons de son échec dans le mode de scrutin. Et je semble croire que l'on joue avec le feu et qu'il était plus important peut-être de mûrir davantage la question et surtout de ne pas céder à la passion.
Professeur Moïna Kiyembe, ne faudrait-il pas dédramatiser la révision constitutionnelle?
Évidemment, on peut dédramatiser. Dédramatiser, ça veut dire respecter l'esprit des lois, l'esprit de la Constitution, c'est-à-dire faire la révision conformément à la loi. Or, dans le cas qui nous occupe ici, notamment sur l'article 71, mon collègue qui vient de prendre la parole a essayé de montrer que, en fait, l'élection à deux tours du président de la République, comme l'a rappelé d'ailleurs le cardinal Monsengo, contrairement à certains esprits qui ont essayé de détricoter son discours, il n'a fait que rappeler l'esprit de loi. Savez-vous que nous sommes dans un pays où il y a environ 400 à 500 ethnies, toutes tendances confondues? Si vous gagnez 20-18%, comme ça arrive souvent même ici, le premier tour, c'est toujours entre 19, 20, 21, 23, voire 30, mais vous n'aurez pas gagné dans la majorité du suffrage de la majorité de la population. Il est à craindre, comme il y a toujours des violences et des menaces de balkanisation qui pèsent sur notre pays, qu'un kidam sortant de la brousse dise ben voilà, je ne reconnais pas un tel parce que c'est le président de tel coin, il n'a pas eu la majorité, etc. Ces choses-là peuvent paraître banales aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas vécu le passé de la République démocratique du Congo, mais c'est très important que le président de la République soit élu au moins avec 50% de la population et plus un pour pouvoir disposer d'une véritable légitimité. Vous me direz, j'ai entendu l'argument un peu à côté, oui mais il y a des présidents qui sont élus par les chambres. Si les présidents sont élus par les chambres, ils sont élus par les chambres, c'est l'esprit de la Constitution. Mais ici, pour des raisons de contingence historique, il a été décidé autrement. Donc, le fait que, sans qu'il y ait une raison apparente, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de menace sur la République, le président de la République lui-même n'est contesté par personne, il a son bilan, quelle que soit la qualité de ce bilan, qu'on l'accepte ou qu'on le déplore, il a au moins le devoir, demain, de le présenter devant les Congolais, de lui expliquer ce qu'il a fait, en bien, ce qu'il a fait mal, ce qu'il reste à faire, et demander à l'électorat, éventuellement, s'il le désire, d'adhérer à son projet, de lui renouveler son mandat, ou le cas échéant, de le rejeter.
Donc,
il n'y a rien là de dramatique pour que l'on soit dans une sorte de précipitation dont on ne voit pas la motivation.
Professeur Moïla, n'est-il pas aussi réaliste d'organiser les élections avec ses propres moyens, avec les moyens qu'on a?
Mais ce serait à l'honneur de notre pays d'organiser les élections avec ses moyens. Or, jusqu'à la preuve du contraire, les élections ont été organisées jusqu'à présent avec le soutien de la communauté internationale. Mais si notre pays, aujourd'hui, peut-être tirant le profit de la réduction de la dette avec cette histoire de PPTE qui avait été à ça, c'est à son honneur. Mais cet honneur ne doit pas contraindre le gouvernement à violer la Constitution ou à faire violer la Constitution au motif que les Congolais vont eux-mêmes financer les élections. Mais ça n'a aucun sens. L'élection, c'est l'étalon à partir duquel chaque peuple se donne souverainement ses dirigeants. Ce n'est pas une affaire d'argent. Si notre pays a de l'argent, Dieu merci, on peut féliciter le gouvernement, mais que le gouvernement respecte la Constitution, respecte la loi, tout simplement. Ce n'est pas un problème d'argent.
Professeur Ngoma Dinda, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous venez de faire votre entrée dans ce studio. Professeur, le scrutin présidentiel à un seul tour, y a-t-il urgence, professeur, pour réviser la Constitution sur ce point?
Il s'agit donc essentiellement de l'opportunité temporelle, à mon avis, de pouvoir réviser la Constitution. Je crois que en cette matière, il n'y a pas un temps bien précis pour pouvoir réviser quelque chose, par exemple, qu'on constaterait comme étant déficient dans une loi ou dans une constitution. Je dis, il n'y a pas de temps bien idéal parce que toute constitution contient d'une manière ou d'une autre des lacunes. Et vous savez, par exemple, la nôtre qui a été comme une sorte de compromis entre des belligérants a dû laisser ça et là, et j'en suis persuadé, j'ai la constitution devant moi, a dû laisser ça et là des éléments qui méritent effectivement qu'on y revienne un jour ou l'autre. Quel est le moment le plus idéal, le plus indiqué? Probablement pas après, par exemple, une année ou deux ans, quand on a voté la constitution de 18 février 2006, il n'était pas indiqué que directement après, on révise. Mais je tiens à ceci que ça contient bel et bien des lacunes, notamment, je peux vous en indiquer. Une, le fait qu'on n'ait pas du tout tenu compte, notamment, des critères de moralité parmi les critères d'éligibilité des députés à tous les niveaux. Pour moi, en tant qu'analyste, philosophe, c'est une lacune absolument importante. Ça doit tôt ou tard être révisé. Donc, mais quand faut-il arriver à réviser? Peut-être après 3 ans ou 4 ans de l'exercice, ou alors peut-être pour une matière qui devrait venir plus tard, immédiatement quand on a élu le président de la République ou les députés, et alors là, on procède déjà dans un temps, comme disent un peu les juristes, non suspect, arriver déjà à prévoir les lacunes étant données, les analyses qu'on aura faites sur l'élection antérieure. Mais professeur, là, on est à quelques mois des élections, est-ce important? Je pense que c'est important essentiellement en ce qui concerne le coût des élections. J'y tiens beaucoup, je me suis déjà exprimé là-dessus. Qu'on le veuille ou non, les élections coûtent très cher. Nous venons de faire des analyses qui ont abouti à la publication de 2 ouvrages sur nos élections ici. Il a été constaté que nous avons dépensé 547 millions de dollars pour les élections de 2006 et ces élections ont été largement supportées pour 90%, c'est-à-dire le pays en fait n'a pris que 8,88% de ce coût-là. C'est à la fois une honte et une misère. Une honte parce que nous avons été largement, trop largement supportés par la communauté internationale. Vous savez, on ne va pas le répéter ici, lorsque quelqu'un vous donne, il peut imposer ses conditions, il peut faire parfois du chantage sur ce que vous faites.
Mais le prof Moïse a dit que le problème de moyens, c'est un faux problème.
Je suis d'un avis tout à fait contraire, qu'on nous prouve qu'effectivement nous sommes capables de mobiliser 715 millions de dollars. Maintenant, je vous dis que pour 2006, c'est venu de l'extérieur. Si pour le moment la MONUSCO ou d'autres, l'Union européenne, se met d'accord pour nous apporter cela, tant mieux. Mais pour le moment, je pense que on ne peut pas se donner le luxe de toujours dépenser des millions d'argent, des millions de dollars, alors que nous avons des grandes, grandes, grandes priorités pour l'éducation, les salaires, etc. Sincèrement, c'est une question finalement d'éthique financière qui se pose ici. Comment pouvoir utiliser le peu d'argent que nous générons? À quoi faut-il l'allouer? Je crois que là, ce n'est pas simplement une rationalité, mais une éthique financière qu'il faut absolument observer.
Professeur, avant de redonner la parole au professeur Arsène Mouaka, il a évoqué le professeur Moïla ainsi que le professeur Mouaka ont reconnu que ça porterait des germes de conflit ce scrutin présidentiel à un seul tour.
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, regardez, bien au contraire, je l'ai dit tout récemment dans une autre émission, bien au contraire, ça émietterait les passions, les tensions, c'est-à-dire ça édulcorerait la fulgurance des passions, parce qu'il y a plusieurs candidats. Et le candidat qui arriverait en dernier, en premier lieu, eh ben, serait accepté. Qu'on me dise que, parce qu'il serait représenté, il serait élu par une frange infime par la, de la population, mènerait à des frustrations identitaires, mais retenez que le président de la République, pour le moment, a été élu largement par l'Est. Et ce n'est pas pour autant que l'Ouest ou le Centre aient été poussés qu'on ne reconnaisse pas le président Kabila comme président de tout le monde. Moi, je pense qu'il faut éviter de générer, de créer ou de forger des problèmes qui ne devraient pas arriver du tout. Et que et j'aimerais vous dire rapidement que, personnellement, s'il m'était donné de pouvoir donner un avis sérieux sur la révision, on devrait même aller plus loin, c'est-à-dire au-delà des matières qui sont prévues là, il faudrait qu'on aille à la révision du caractère direct ou indirect de nos élections au suffrage universel.
Professeur, je vous redonne la parole dans un deuxième tour de table sur cette question. Professeur Mwaka, vous avez suivi le professeur Ngoma Dinda, je vous ai vu rire et sourire quelquefois. Réaction.
Oui, je refuse qu'on puisse économiciser la politique. Nous avons longtemps péché à réfléchir ça en termes de gains et de pertes à réfléchir sur la politique. Je crois que les élections, c'est un moment important, d'abord de stabilisation du pays, puisqu'il faut réfléchir économiquement. Je crois que la question qu'on se poserait, c'est de savoir, nous perdrons combien d'argent si nous ne sortions pas les 715 millions de dollars américains pour les élections. On va perdre combien? Je prends l'exemple de la guerre. Nous avions la CPGL, par exemple, pour gérer politiquement l'Est de notre pays. Nous dépensions des millions que nous déplorions sur le plan économique, mais qui nous faisaient gagner politiquement beaucoup d'argent. Je crois qu'en sortant 715 millions de dollars pour une question importante comme celle de la légitimité du pouvoir, qui a longtemps fait perdre des milliards au pays. On n'a qu'à se référer au procès contre l'Ouganda qui nous doit aujourd'hui 10 milliards de dollars pour le temps des guerres qui nous a été imposées par absence des dirigeants élus et légitimes. Je crois que la question de la légitimité du choix des chefs, du chef de l'État n'a pas de prix. Et l'unité nationale n'a pas de prix. Je crois que c'est un véritable faux argument que de dire que ça nous coûte cher d'organiser les élections. De deux, je voudrais placer un mot pour dire, est-ce que le chef de l'État se sent très mal à l'aise d'avoir été élu au suffrage universel à deux tours? Est-ce qu'il se sent mal à l'aise et il veut résoudre ses problèmes? Est-il mécontent d'avoir réussi à rallier le panneau de Gizenga, d'avoir réussi à rallier l'UDEMO, d'avoir réussi à rallier une multitude d'autres partis politiques qui constituent aujourd'hui l'AMP? Parce qu'il est mal à l'aise. Et je crois que c'est peut-être à ce niveau que le chef de l'État s'expliquerait aussi pour dire qu'il est gravement mal à l'aise d'avoir réussi à rallier l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud de notre pays. Je crois qu'il y a un véritable débat, mais l'essentiel c'est de dire qu'on refuse d'économiciser les débats politiques.
Professeur Mwaka, prenons cette question qui nous vient de Bukavu pour vous.
Robert Mahomet de Bukavu, au sud Kivu. En 2005, le souverain primaire a été consulté par référendum pour qu'il se prononce pour ou contre l'actuelle constitution. Maintenant que l'on veut en modifier certaines parties, notamment celles liées au premier tour et au deuxième tour du scrutin présidentiel, pourquoi ne pas en faire de même? Je pense que, ainsi faisant, cela éviterait à l'opposition de taxer la majorité de chercher à tripatouiller la constitution.
Réaction, professeur Mwaka.
Oui, je ne voudrais pas trop me mêler du débat des politiciens, mais je veux quand même dire que c'est une question très importante. Peut-être qu'il faudrait un référendum, mais je crois qu'il y a des élus qui sont élus et le débat est au Parlement. Je continue à croire que ceux qui sont élus représentent l'opinion de ceux qui sont restés à la maison et que les députés représentent valablement. Mais je crois qu'un tour à la ville, malheureusement, nous n'avons pas de véritables instituts de sondage. Mais si vraiment on était démocrate et qu'on avait le souci de la démocratie, je crois qu'il y a une majorité écrasante de la population qui se dégage pour dire non à cette révision, elle ne sert pas le pays. Et si on était attentif, je crois qu'on suivrait cette majorité de la population. Déjà, les forces civiles s'expriment, des leaders d'opinion s'expriment, je sais que le pouvoir aussi s'exprime, mais je refuse vraiment de me placer dans l'un ou l'autre camp, mais j'invite les deux cas à regarder le côté de la nation congolaise. Qu'est-ce que nous gagnons à faire un deux tours? Mais je crois que nous avons tous les avantages du premier tour en organisant le deuxième tour. Nous ne perdons pas aucun avantage à part le fait que l'on nous dit que ça coûte cher d'organiser le deuxième tour. Mais sinon, tous les avantages qui sont cités par ceux qui argumentent pour dire qu'il faut un seul tour, ils seraient portés dans le deuxième tour, tous ces avantages-là.
Professeur Moïla Tiembe, nous prenons deux auditeurs qui nous écrivent de la province orientale, Joachim de Bounia. Je trouve que la question de la révision constitutionnelle est purement politique, car ce n'est plus le moment. Avec une longue liste des candidats à la présence que nous avons l'habitude de connaître, nous, Congolais et Congolaises, comment pouvons-nous accepter un président de toute une république qui soit élu à 20 ou 30%? Jean-Pierre de Kisangani, l'argument avancé par l'ANP n'est pas du tout vrai. La vérité, c'est la donne politique qui a changé subitement avec l'arrivée à Kinshasa de Tshisekedi et la prise de position de Vital Kamerhe. L'ANP pensait déjà à la victoire au premier tour avec l'absence de Jean-Pierre Bemba, que cette plateforme présidentielle cesse de distraire la population. Professeur Maïla.
Oui, vous savez que j'ai écouté attentivement mon collègue Momabina. Je suis un peu surpris de l'entendre tomber sur l'argument du financier, parce que notre pays n'a jamais payé des élections, à ma connaissance, peut-être que lui a l'expérience. Tout le temps que moi j'étais aux études avec lui, durant la période de Mobutu, il n'y avait pas des élections, donc on pouvait demander aux gens en disant, ben voilà, il y a eu autant de millions, on a dépensé, etc. Et les premières élections libres, démocratiques et transparentes qui ont été organisées dans notre pays, c'est la communauté internationale qui a payé. Alors, si notre pays a les moyens aujourd'hui de le faire, même en moitié, mais ce n'est pas une raison pour violer la Constitution. Je ne sais pas si M. Momabinda fait le lien entre le fait d'avoir de l'argent qui est un point positif pour le gouvernement et le fait de violer la Constitution, ce n'est pas la même chose. On ne veut pas violer la Constitution parce qu'on a les moyens de payer les élections. Je ne vois pas le lien de cause à effet. Alors, par rapport à notre ami de Kisangani ou de la province orientale, il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'opportunité de faire une élection au premier tour, seulement un seul tour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la garantie que celui qui fait les élections au premier tour les gagne. Parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour les imbéciles. Si le président de la République, qui a un bilan, présente son bilan devant le pays, et que si la population, regardant ce qu'il a fait ou ce qu'il est en train de faire, en bien ou en mal, ce qu'il peut faire demain, accepte de lui renouveler son mandat, le pays peut le faire, la population, l'électorat peut le faire au premier tour, comme il peut le faire pendant, au bout du deuxième tour. Et il n'est pas certain qu'en faisant le premier tour, ce qu'il organise gagne impérativement les élections. Donc, il n'y a pas d'assurance tout risque qui consisterait à dire, bah, puisque vous avez un bilan, vous faites les élections au premier tour, donc vous allez gagner et le pays sera tranquille. Je trouve ce type de raisonnement tout à fait absurde, pour la simple raison qu'il n'y a pas de certitude qu'une organisation, une élection organisée uniquement en un tour, puisse permettre à ceux qui l'ont organisé, quel que soit le mérite, quel que soit le projet, quel que soit le programme, puisse payer. Donc, il y a la possibilité de laisser l'électeur raisonner. D'ailleurs, le président de la République lui-même, lorsque, dans l'interview qu'il avait accordé à Jeune Afrique en 2007, quelqu'un lui demandait, mais est-ce que vous êtes surpris que M. Kengo Wadondo soit élu au Sénat? Le président de la République a dit, on peut être surpris, mais je suis un démocrate, j'accepte qu'il a été élu, et le journaliste le relance en disant, mais il a été élu avec les voix des gens de votre majorité. Il a dit, mais pourquoi pas, moi aussi j'ai été élu au second tour avec les voix de l'opposition. Donc voilà un raisonnement logique, le chef de l'État lui-même le dit, il renvoie à ceux qui en ont besoin de doute, d'aller vérifier cette interview. Le président de la République reconnaît lui-même que le second tour peut permettre, même là où l'opposition avait triomphé, parce que tout le monde, même au centre du pays, où il y a eu une majorité de votes pour l'opposition, mais l'opposition n'a pas gagné les 100% de votes. Il y a des gens au centre qui ont voté pour le président Kabila, il y a des gens à l'Équateur qui ont voté pour le président Kabila, il y a à Kinshasa même des gens qui ont voté pour le président Kabila, même au Bas-Congo, il y a des gens qui ont voté pour lui, même si ce n'était pas majoritaire, mais il a gagné partout
même quelque chose sans être majoritaire, même si dans l'Est, il était majoritaire. Donc on ne peut pas soutenir la thèse qu'il a été élu majoritairement à l'Est. Donc, par conséquent, on peut se contenter qu'un président ait été élu par 19% des Congolais ou 20% des Congolais pour justifier sa représentativité. Je respecte, bien sûr, le point de vue des collègues qui soutiennent cette proposition, mais il faut quand même reconnaître que c'est une proposition qui n'a rien à voir avec la question. La question, c'est est-ce qu'on va violer la Constitution d'une manière délibérée au motif que le pays a plus d'argent pour payer au moins d'argent. Ça n'a rien à voir.
Professeur Moïse, la prononcée question qui nous vient de Kamanga au Kassai occidental pour vous.
Depuis Chamba et Kananga au Kassai occidental, je constate qu'il n'y a pas de volonté politique manifeste entre l'ANC et l'Union pour la Nation pour nous conduire aux élections dans les délais. Ah, après la question de la CENI est restée entre parenthèses et sans être favorable à ces jours. Voici la deuxième question qui tombe, risque aussi de ne pas prendre fin. Je pense qu'il faut chercher une cohésion durable et l'UN doit éviter d'avoir peur et de faire une fuite en avant.
Professeur Moïla, personne n'est sûr hein, de gagner ces élections au premier tour, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui justifierait cette forme d'agitation ? Brève réaction, je vous en prie.
Mais oui, brièvement, on peut dire que, en réalité, il faut distinguer le président de la République et ce qu'il pense de l'ANP. L'ANP ne parle pas au nom du président Kabila, il ne l'engage pas. C'est un débat entre une majorité présidentielle qui avait contribué, donc un conglomérat de partis politiques, des associations, des personnalités qui ont accepté de se mettre derrière le chef de l'État pour le soutenir. Mais l'agitation actuelle, on n'a pas la certitude que c'est le chef de l'État qui est derrière.
Merci
donc il faut distinguer la part, il faut faire la part des choses. Il y a des députés qui ont des avis, on peut les partager ou ne pas les partager, mais ça n'a rien à voir avec ce que pense le chef de l'État. D'ailleurs, l'élection présidentielle, c'est l'engagement d'un individu, d'un homme ou d'une femme au regard de la nation.
Merci,
ça n'a rien à voir avec les partis politiques qui soutiennent cette personne, elles peuvent le soutenir ou non. Alors, quant à l'ANP et l'Union de la Nation, bien sûr, ce sont des cartels politiques qui sont respectables. Mais est-ce qu'il faut souhaiter que tout le monde se mette d'accord? Le problème n'est pas que les gens soient d'accord pour rien ou parce que nous sommes dans un État démocratique. Ce qu'on voit ici, c'est la Constitution qui est en cause. Doit-on violer délibérément la Constitution? C'est ça la question.
Merci, professeur. Professeur Ngoma Dinda, deux auditeurs pour vous également. Claudel de Gisenyi au Rwanda. On se rappellera que ceux qui sont avertis avaient demandé de revoir la Constitution avant le référendum. Et ceux qui sont dans la majorité comme dans l'opposition s'étaient tous opposés à l'époque. Pourquoi les Congolais se distinguent toujours dans l'irrégularité? Narcisse de Kinshasa, si l'ANP déclare qu'il n'y a pas d'argent pour le second tour, que chaque citoyen puisse donner $2 pour l'organisation de ce scrutin au lieu de réviser la Constitution. Professeur.
On dit qu'il fallait revoir la Constitution avant le référendum. Ça, je n'ai pas bien compris parce que la Constitution précisément a été votée au référendum. J'aimerais dire aux collègues Moïla que réviser la Constitution n'équivaut pas directement à violer la Constitution. Je ne pense pas. Nous ne devons pas faire ce saut rapide. Je crois que il y a des mécanismes qui sont prévus par la Constitution pour réviser, qu'on le veuille ou non, si on est légaliste, c'est dans la légalité qu'on demande qu'on revoie certaines dispositions. Ce qui serait matière à controverse serait la violation de l'article 220, effectivement, de la Constitution qui verrouille certaines matières. Donc, je pense que là, c'est clair et net. On peut revoir la Constitution. Et probablement, l'élément le plus important là-dedans, c'est ce que j'ai dit, à quel moment non suspecte il est permis de pouvoir revoir la Constitution. Tout le monde s'accorde, quand on a le bon sens, que pour le moment, à l'approche des élections, il y a matière à suspicion.
Ça, c'est clair et net. Mais quant au principe de revoir, c'est quelque chose qui ne va pas. Par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, le niveau d'études des candidats aux élections législatives, aux présidentielles, le niveau de moralité de nos élus ou prétendants aux élus, ça, c'est une matière qui n'existe pas dans la Constitution qu'il faut un jour ou l'autre revoir. Quant à l'argent, c'est bien qu'on se félicite d'être aidé pour nos élections, notamment, moi, là, j'ai parlé des élections de 2006, qu'on se félicite de nous faire prendre en charge par la communauté internationale, cela n'est pas un honneur du tout. À un certain moment, dans la société civile, nous avions eu l'idée de pouvoir rassembler, comme le dit l'intervenant tout à l'heure là, rassembler chacun un dollar pour pouvoir faire organiser, pour pouvoir soutenir l'organisation des élections. Mais là, ce n'est pas une entreprise tout à fait aisée à réaliser. Tout le monde le sait, comment même nous de la société civile, ceux qui sont de la société civile, comment nous gérons l'argent que nous recevons ça et là des organisations internationales, cela n'est pas toujours facile à réaliser. Et qui va se donner cet argent-là pour pouvoir organiser les élections? Je continue à persister que on ne va pas économiciser, comme le dit le collègue, mais on ne peut pas faire la politique sans argent.
Cela ne comprend pas les suspicions, professeur, dont vous avez parlé par rapport au moment.
Que
l'argument, cet argument de pas d'argent par d'argent.
Oui, c'est pour cela que moi, j'ai toujours milité. Et ce n'est pas maintenant à l'occasion de ces débats que je prétiens les positions qui sont les miennes. C'est écrit dans des ouvrages. J'ai toujours voulu qu'on aille plus loin, c'est-à-dire qu'on procède comme on fait en Afrique du Sud, des élections au suffrage universel, indirect, et là, je vous assure, il y a les avantages de la transparence parce qu'on sait que pour notre pays, c'est 500 ou 600 personnes seulement qui voteraient pour le président de la République, et on sait bien que, quel que soit le nombre infime de ces gens-là, eh bien, le président serait bel et bien légitime. Ensuite, un autre avantage, c'est la transparence. C'est aussi le caractère informé de ceux qui prennent part aux élections.
Le contexte congolais s'y prête-t-il, professeur?
Le contexte congolais s'y prête. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut commencer un jour. Il faut absolument faire en sorte que les conditions, effectivement, du début, d'une procédure plus simple, moins coûteuse et transparente, qui n'amène pas des contestations orageuses, puissent s'établir. Si on continue à croire que les conditions ne sont pas toujours prêtes, les conditions, regardez, le corps électoral de notre pays sera probablement, si nous sommes 60 millions pour le moment, ce sera probablement 30 millions, 31 millions de votants. Si, du moins, le taux de participation est maximal. Encore que, comme nous le savons, c'est le taux de participation aux élections n'est jamais aussi élevé qu'on le pense, soit 50%, 51%. On n'arrivera jamais à cela. Donc, moi, je milite ou je pense qu'il est sage et intelligent de pouvoir opter pour un système qui économiserait à la fois les tensions et l'argent et aussi la transparence, qui augmenterait la transparence dans les élections.
Prenons cette question qui nous vient de Goma pour vous, professeur Ngoïnda.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi de Goma au Nord Kivu, je pense qu'il y a moyen de résoudre le problème des contraintes budgétaires autrement que par une révision constitutionnelle. La lutte contre la corruption, par exemple, est un moyen pour juguler la fraude et l'évasion fiscale qui appauvrissent l'État congolais et les rendent dépendants des financements extérieurs. En cette année électorale, les priorités devaient être, à mon humble avis, la composition et l'installation du bureau de la CENI, l'achèvement de la révision du fichier électoral, l'adoption de la loi électorale, sans oublier la spécialisation du pays.
Professeur Ngoma Binda, on pourrait économiser plus d'argent en luttant contre la corruption.
Il y a totalement raison. Il faut, d'ailleurs, il faut absolument lutter contre la corruption pour économiser de l'argent. Mais il n'est pas dit que l'argent qu'on va économiser doive absolument être dépensé dans des entreprises très, très spendieuses. Je pense que il est possible de voir la priorité de nos problèmes, de voir où il faut affecter cet argent qu'on va économiser lorsqu'on aura lutté efficacement contre la corruption, contre les détournements, l'évasion,
l'évasion, c'est aussi une priorité.
C'est une priorité, mais c'est une priorité, à mon avis, qu'il est possible de placer à un niveau inférieur que l'éducation nationale, etc. Vous connaissez bien les priorités sociales.
Professeur Arsène Mouaka, je rappelle que vous êtes professeur au département des sciences politiques de l'université de Kinshasa. Il y a cet auditeur, Kikuni Bungulu Joseph, qui nous écrit de Goma au Nord Kivu. La majorité et l'opposition sont toujours unanimes lorsqu'il s'agit des huis clos sur leurs émoluments, mais sur les questions importantes concernant l'intérêt général de la nation, on diverge. Comment aller aux élections dans le délai constitutionnel?
Très difficile, puisque à chaque fois que nous avons connu des processus dans lesquels nous étions nous-mêmes maîtres du volant, chacun de nous se rappelle encore de la transition de Mobutu où l'opposition n'a pas cessé de poser des conditions, ce qu'on appelait à l'époque des préalables. Des préalables qui allaient notamment dans le sens de la construction de routes, des préalables qui allaient dans le sens de la construction des bâtiments et ainsi de suite, qui n'ont jamais été faits, et nous avons connu des élections qui étaient pratiquement policées par la communauté internationale et nous avons pu les organiser telles qu'elles ont été organisées. Je crois que là encore, on est à face d'un autre numéro qui veut empêcher qu'il y ait élection à 2011 et du coup faire retomber le pays dans des situations que nous avons connues où ceux qui dirigent sont toujours illégitimes et du coup prêter les plans à ceux qui pensent qu'il faut résoudre le problème par les violences.
Professeur, je vais vous demander de conclure déjà parce que nous abordons la dernière partie de l'émission.
Oui, je voudrais dire que j'ai beaucoup attendu que le chef de l'État qui serait élu à un seul tour aura 30%. Je voudrais dire que il n'est pas vrai, il est possible qu'il arrive aussi à une majorité absolue et dans l'argumentation contre ceux qui pensent qu'il faut un tour, je crois qu'il ne faut pas commettre des erreurs, mais surtout, je voudrais souligner que nous avons connu des révisions constitutionnelles politisées, et je crois qu'on est encore à face d'une de ces révisions qui ont caractérisé le pays depuis les années 70.
Professeur Moïse Akiembe, la proposition de loi a été jugée recevable à l'Assemblée nationale, elle passera au Sénat, certes, jeudi, la question sera traitée en Congrès. Quels pourraient être les scénarios possibles auxquels on pourrait s'attendre les prochains jours? C'est ça aussi votre conclusion?
Oui, je pense que tous les Congolais, qu'il s'agisse des Congolais de l'étranger ici ou des Congolais dans le pays, je pense que la seule espérance, il faut la placer sur le président de la République, qu'il faut appeler de tous nos voeux pour qu'il réaffirme ce qu'il avait cessé de faire, c'est-à-dire, il avait dit, comme vous le savez, en 2007, il avait dit exactement ceci: en principe, la loi fondamentale d'un pays ne devrait être modifiée qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation. Fin de citation.
Merci, professeur. Merci, professeur. Professeur Ngoma Binda, ne va-t-on pas assister à un scénario, par exemple, où l'opposition boycotterait les prochaines élections?
La politique de la chaise vide n'est pas souhaitable. Je pense qu'il faut se battre jusqu'au bout. Et je crois que c'est le président Tshisekedi qui doit avoir dit que, quelles que soient les conditions, elle participerait aux élections. Donc, il faut absolument que tout le monde participe pour pouvoir effectivement pour dégager un président ou carrément des députés élus par le peuple qui est la plus grande légitimité. Et il faut dire également ceci que c'est
c'est tout le monde qui est appelé à travailler pour des conditions transparentes d'organisation des élections. Et c'est le pays entier qui gagnerait.
Merci, professeur Ngoma Binda, doyen de la faculté des lettres de l'Université de Kinshasa, philosophe politologue. Merci au professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de l'ancien en France et analyste politique. Merci au professeur Arsène Mouaka, professeur au département des sciences politiques de l'Université de Kinshasa. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Prenons rendez-vous pour demain. Bonne soirée.